Tu parles à tes enfants. Je propose de lire trois mots dans Éphésiens 5, au verset 16. Racheter le temps. Car les jours sont mauvais. On lira aussi tout à l'heure dans Colossiens 4 où l'apôtre Paul écrit la même chose. Racheter le temps. Et par la grâce de Dieu, que notre lecture et notre méditation de sa parole, parole de vie, que notre lecture nous produise un profond encouragement dans notre être intérieur. Je propose que la prédication se divise en trois parties. Une pour comprendre le temps, une pour comprendre les jours sont mauvais, et une pour comprendre racheter. Si on fait une lecture superficielle de ce verset, un peu rapide en français, on pourrait en déduire qu'il faut se presser, qu'il ne faut pas perdre une seconde. Je veux dire, assez souvent ce verset, du moins dans les versions, dans les traductions littérales de la Bible, produit un sentiment d'urgence. Alors, ce n'est pas entièrement faux. Cependant, il y a plusieurs mots différents dans le Nouveau Testament, dans le texte original. Il y a plusieurs mots différents qui peuvent en français être traduits par « temps ». Et alors, un des plus faciles à se rappeler, c'est « chronos ». En grec, chronos, donc d'où le chronomètre, la chronologie, etc. Et donc, dans ce verset-là, ce n'est pas ce mot qui est employé. Autrement dit, la première idée n'est pas ayez tout le temps un œil sur la montre et ne perdez jamais une minute. D'accord ? Alors, quel est le mot employé? Avant de le dire, je vais apporter une précision. C'est que le contexte de ce qu'on lit dans la Bible est plus important que la connaissance du vocabulaire hébreu ou grec. C'est très important. C'est-à-dire que parfois le mot chronos est employé avec une nuance de plus, et parfois le mot qu'on a là, ça dépend des auteurs, ça dépend de l'emploi. Alors, il y a trois mots qui sont traduits par temps, trois mots grecs. Le premier, alors ne vous inquiétez pas, je vais pas être très technique. Le but, vous allez le comprendre assez vite, le but c'est d'arriver au troisième mot. Et c'est de là que viendra l'encouragement. Donc, le premier mot, aiwon, c'est un mot qui est souvent traduit par le siècle, même par le monde. Quand les disciples demandent au Seigneur dans Matthieu 24 et quels sont les signes de la fin du monde. Et donc, littéralement, c'est de la fin des temps, de l'achèvement des temps. C'est où, par exemple, quand Jésus dit les enfants de ce temps, c'est-à-dire les enfants de ce siècle, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les fils du royaume, etc. Donc, il y a un premier mot. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a chronos. Et chronos, c'est le temps qui se déroule. Voilà. Le temps qui se déroule. Et même dans la Bible, il est souvent employé simplement dans ce sens-là. Par exemple, quand le Seigneur, avec les disciples, redescend de la montagne de la Transfiguration et qu'il y a un garçon qui est démonisé et les disciples, ils n'étaient pas arrivés à chasser le démon. Et donc, le Père amène l'enfant vers Jésus et Jésus demande au Père. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Là, c'est chronos, le temps qui se déroule. Hein? Et autrement dit, ça fait combien de jours ou bien combien de mois? Et bon, le père, il dit, ben, ça fait depuis son enfance. D'accord? C'est le temps qui se déroule. Maintenant, dans notre verset, racheter le temps, c'est un autre mot. Bon, c'est kairos, bon, peu importe. Et là, c'est le temps, c'est un temps spécifique, c'est le temps opportun pour quelque chose. Si vous voulez, l'emploi de ce mot dans le grec habituel, le grec or du Nouveau Testament, il désigne bon, le temps opportun, le point juste. Il y a un focus qui est mis. Alors, le Nouveau Testament, par exemple, Jésus dit dans l'une de ses paraboles, quand le temps de la vendange fut arrivé, et la parabole des vignerons, littéralement le temps des fruits. Et donc pour le profane, c'est simplement, ça ne veut pas spécialement dire le temps qui se déroule, mais ça veut dire, voilà, il y a un moment où c'est mûr et c'est maintenant qu'il faut récolter. D'accord? C'est évidemment, ça fait écho à la manière dont l'Ancien Testament, donc en hébreu, emploie les mots temps. Il y en a aussi au moins deux mots différents en hébreu. Et donc le passage le plus célèbre, c'est Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toute chose. Et là, il n'y a absolument pas une idée de chronomètre, ni de calendrier. Voilà. Simplement, et c'est voilà, et c'est là, c'est maintenant que commence l'encouragement. Dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament en hébreu, dans le Nouveau en grec, quand les auteurs bibliques emploient des mots, ils emploient évidemment les mêmes mots qui existent pour d'autres dans leur langue. Assez souvent, ils les emploient avec le même sens, hein, c'est le temps de la vendange, etc. Mais il les emploie en faisant référence au Créateur. De telle sorte que quand un disciple de Jésus dit c'est le temps de la vendange, pour lui, ce n'est pas simplement la nature. Les saisons, la terre tourne autour du soleil, etc. C'est notre Créateur a fait les choses ainsi. D'accord? Donc, il y a une façon d'employer le mot temps qui se réfère à Dieu. Non seulement il est le Créateur du temps, mais le Créateur de toutes choses. Voilà. Alors, on a par exemple dans Ésaïe 60, et c'est très important, je vais le lire. C'est important de lire, ne serait-ce que, j'ai cité Ecclésiaste 3, mais de lire ne serait-ce qu'un verset dans l'Ancien Testament, parce que les auteurs du Nouveau Testament, bien qu'ils aient écrit en grec, étaient complètement façonnés et nourris des Écritures. Et donc voilà par exemple le dernier verset d'Ésaïe 60. Vous voyez, juste avant 61, verset 1, verset archi connu, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé, etc. Eh bien, juste avant, le dernier verset du chapitre 60 chez Ésaïe, le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. C'est-à-dire au moment que j'ai fixé. Et tout le contexte d'Ésaïe 60, c'est la restauration, et le contexte plus élargi, la restauration une fois que le Messie aura accompli la rédemption, le salut, le rachat. Et là, on s'approche de notre verset, le rachat. D'accord ? Alors, je vais rappeler quelques versets, tous les uns plus connus que les autres, dans le Nouveau Testament. Marc 1, verset 15, c'est notre Seigneur qui parle, le Fils de Dieu incarné, qui commence son ministère, le temps est accompli. Le royaume des cieux s'est approché. Dans Marc, le royaume de Dieu s'est approché. Donc, ici, le mot temps, il me met face à la venue de Christ, la première venue, l'incarnation. Un autre verset très connu, Romains 6, verset 5. Au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Et donc, c'est énorme. C'est-à-dire, ce n'est pas quand, au moment où les accusateurs pharisiens n'en pouvaient plus et ont décidé de le faire mourir, c'est pas au moment où Pilate, ayant voulu une première fois le relâcher, finalement a cédé. Vous comprenez, c'est au temps marqué. Marqué par qui ? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, Paul était nourri des Écritures, donc marqué par l'Éternel, au temps voulu de Dieu. Au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Donc, une première fois, l'emploi biblique du mot « temps » me met face à l'incarnation. Une deuxième fois, l'emploi biblique du mot « temps », c'est-à-dire la manière dont la Bible emploie le mot « temps », le fait que ce soit écrit, non pas dans n'importe quel livre, mais écrit dans la Bible, ce fait-là me met face à la croix. Et puis, une troisième fois, par exemple, 1 Corinthiens 5, verset 4, « Ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière les choses cachées, etc. » Donc, cette troisième fois, le fait que le mot « temps », je le lise dans la Bible, me met face au retour de Christ. Et donc, évidemment, vous l'aurez compris, les trois fois, ce n'est pas le mot « chronos » qui est employé. C'est le mot « kairos », c'est-à-dire le juste point, le temps fixé par Dieu, le moment de Dieu. D'accord ? Voilà, une première fois face à l'incarnation, une deuxième fois face à la crucifixion suivie de la résurrection, et une troisième fois pour nous encore aujourd'hui face au retour de Christ. Et c'est dans ce sens, bien sûr, que les apôtres parlent des derniers temps, ou les temps de la fin. Paul en parle, Pierre en parle, et ils en parlent tous. Toujours avec ce même mot. Alors, voilà les trois fois. J'ai pris trois exemples, hein, mais après, c'est par dizaines et dizaines et dizaines que le Nouveau Testament, en employant le mot temps, nous met face à lui. Alors vous allez dire, mais moi je ne savais pas qu'il y avait un autre mot, je ne connais pas le mot kairos, je n'ai jamais entendu, je n'arrive pas à lire, même pas à déchiffrer le grec, ce n'est pas un problème. On va le voir quand on va lire. Pour mieux comprendre le temps et les jours sont mauvais et même rachetés, on va lire le contexte élargi d'Éphésiens 5 et le contexte un peu moins élargi de Colossiens 4. Et vous allez voir que ça nous dit les mêmes choses. Alors, je vais citer encore un verset où on a le mot temps. Je ne vais pas le citer, je vais le lire. 2 Corinthiens 6, verset 2. Et pareil, un verset très très connu. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Donc ça, c'est Ésaïe 40. Ça, c'est une citation. Paul cite Ésaïe 49, verset 8. Donc c'est écrit en hébreu. Et ensuite, Paul continue. Et là, lui, il écrit en grec. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Non, on le connaît, ce verset. Alors, ce jour du salut, vous comprenez, ce n'est pas 24 heures. Ni le chronomètre, ni la montre ne nous sont d'aucune utilité là pour comprendre. Ce jour du salut, mais c'est celui qui va de l'incarnation de Christ jusqu'à son retour, avec la croix et la résurrection au milieu. Nous sommes dans ce jour-là. Et quand le disciple de Jésus lit le mot temps, donc à part hein, depuis combien de temps ça lui est arrivé, vous comprenez, hein? Mais quand le disciple lit le mot temps dans la Bible entière, eh bien, il est mis face, comment dire, il le lit, il doit le lire. En se disant, c'est le jour du salut, le temps du salut, le temps de la grâce. Et je suis dans ce temps-là. Je vis dans ce temps-là. Donc, si je reviens à racheter le temps, eh bien, forcément, forcément, ça ne veut pas dire courez à toute vitesse, tous azimuts, ne perdez pas une minute, ne prenez même pas le temps de boire, même pas le temps de respirer, courez partout. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire investissez-vous comme des fils du salut, comme des fils du jour du salut, du temps de la grâce. Si vous voulez, l'idée est présente quand même. Ne gaspillez pas le temps de la grâce. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alors, ça. Ça en dit beaucoup. Ça veut dire que finalement, cette vie terrestre, physique, humaine, la vie de l'âme, etc., qui est si belle, si précieuse, cette terre que Dieu a créée, si belle. Non, non de sens. pérenne, c'est-à-dire de sens éternel, que par l'incarnation, la crucifixion, résurrection et le retour de Jésus. S'il n'y a pas Christ, la vie si belle n'est que éphémère. Elle passe. Elle passe. Et Jésus a beaucoup insisté là-dessus, pas mal de fois. Par exemple, celui qui est devenu riche, ses champs ont beaucoup rapporté. Et dans la parabole, Jésus, il fait dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Voilà. Toute notre vie sur Terre, toute notre réussite, toute notre santé, toute notre amitié, toutes les montagnes, la mer, les forêts, les grottes, que sais-je, n'ont en elles-mêmes qu'un sens éphémère. Et donc le fait que je sois sur Terre, moi, au milieu de tout ça, étudiant, manuel, avec telle ou telle profession, en bonne santé, en mauvaise santé. Quand je dis moi, chrétien maintenant, le fait que nous, chrétiens, soyons sur cette terre comme ça, ma vie sur terre a son vrai sens dans le fait que c'est le temps du salut. C'est le temps de la grâce. C'est le temps favorable. C'est le jour du salut. Alors maintenant, donc ça c'était la première partie pour un peu comprendre ce qu'est le temps. Si vous voulez, comment lire ce mot temps, comment l'entendre quand je pense au temps. Ne pas penser au temps comme pensent les non-croyants. Ne pas penser à la jeunesse, à la vieillesse comme pensent les non-croyants. Ne pas penser aux capacités, aux moyens que j'ai, aux possibilités de parler, de communiquer par tous les moyens que nous avons aujourd'hui, par Zoom, ou de voyager, ou de rencontrer un tel. Ne pas penser toutes ces choses comme pensent les non-croyants. Alors, deuxième partie, Éphésiens 5, et on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 21, donc pareil, des passages, surtout la fin est très connue, le début aussi quand même, on va lire ça, et c'est le contexte qui va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps, et aussi qu'est-ce que ça veut dire les jours sont mauvais. D'accord? Dans Colossiens 4, Paul ne répète pas les jours sont mauvais. Il répète juste racheter le temps. Donc, lisons ensemble Éphésiens 5, à partir du verset 8. On pourrait en fait même commencer au verset 3, mais on va se limiter. Verset 8 à 21, on va le lire tranquillement. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce qu'on fait, les choses qui se font en secret, ce que ces gens font en secret, donc les gens dans le contexte, c'est les enfants des ténèbres, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui apparaît à la lumière, pardon, tout ce qui apparaît est lumière. C'est-à-dire mise en lumière par Dieu. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, pardon, oui, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Ésaïe 26, Ésaïe 60. Je continue. Veillez ce qu'on vient de lire. Réveille-toi, relève-toi, le Christ resplendira sur toi. C'est Ésaïe 26, puis Ésaïe 60. Veillez donc avec soin sur votre conduite. Non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Continuez d'être remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Tout ce qu'on a lu là, c'est ça, racheter le temps. C'est ça. Okay. Quand je pratique ça, je suis en train de racheter le temps. Ou bien, le premier verset qui a été lu aujourd'hui, Colossiens 3, pensez aux choses d'en haut, etc. Et puis, le verset 4 dit, votre vie, verset 3 dit, votre vie est cachée en Dieu. Vous êtes mort, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et dit, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Eh bien, une fois que je suis convaincu que ma vie, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle que voit l'œil physique, mais c'est celle qui est en Christ, eh bien, ma vie entière, je vais racheter le temps. On revient au verset 8 d'Éphésiens 5, si vous voulez, on va un peu dérouler ce que on vient de lire. Peut-être vous direz, mais pourquoi tu dis que tout ça, c'est ça, racheter le temps? Mais parce que c'est le temps de Dieu. Dans tout ce qu'on vient de lire, ça nous répète d'une manière ou d'une autre que nous sommes dans le temps de Dieu, dans le temps de la grâce, dans le temps de l'Évangile. Voilà. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Donc là, ça fait référence au temps qui se déroule. Le passé, puis le présent maintenant, voilà. OK. Mais ensuite, voilà, ça, c'est les choses, le temps s'est passé, Dieu vous a trouvé, il vous a saisi, vous êtes sauvé, vous êtes en lui, votre vie est en Christ, vous êtes unis à Christ par l'Esprit de Dieu, marchez comme des enfants de lumière. Et ce contraste entre autrefois et maintenant, et marcher non plus comme ténèbres, mais comme enfants de lumière, eh bien, c'est une première chose qui me fait comprendre, bon, dans quel temps je suis, mais aussi qui me fait comprendre qu'est-ce que ça veut dire les jours sont mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Les œuvres des ténèbres. Dans Colossiens 3, qui a été lu tout à l'heure, si on lit un verset de plus, si on bascule au verset 5, 6, eh bien, il dit, faites mourir vos membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire vos différentes capacités à faire le mal. Mais nous sommes lumière, nous sommes enfants de lumière. Oui, mais le Nouveau Testament est extrêmement clair, nous demeurons en partie charnels, capable de faire le mal. Et c'est en cela que les jours sont mauvais. Vous comprenez? Les jours sont mauvais, ça ne signifie pas premièrement, oh, il y a une épidémie. Oh, le climat va mal. Voyez? Que ce soit l'épidémie ou le dérèglement climatique, ce ne sont que des conséquences des œuvres des ténèbres, des conséquences du péché accumulé par les hommes depuis des millénaires. Et ce ne sont pas des conséquences autogènes, c'est-à-dire qui se produisent d'elles-mêmes. Ce sont des sanctions de Dieu, sanctions éducatives pendant un temps, mais sanctions quand même. Et puis, on va lire le voilà. Oui, sanctions éducatives jusqu'au jour de la colère. Et dans Colossiens 3, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les rebelles. Et dans le verset 6 d'Éphésiens 5, là où on a commencé au verset 8, mais si on remonte de un verset ou deux, eh bien c'est la même chose. Voilà. Pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, voyez, les jours sont mauvais, je me répète, mais comment dire, ça serait une erreur de dire les jours sont mauvais parce que nous vivons dans un temps d'épidémie ou un temps de grande pollution, ou, enfin, vous comprenez, hein? Et oh, si j'avais vécu à telle époque et dans tel lieu, dans un temps de réveil incroyable, là, les jours. Là, je dirais, les jours sont bons. Eh bien, dans les plus beaux et les plus grands réveils de l'histoire de l'Église, il y a eu calomnie, persécution, etc., etc. C'est-à-dire que les œuvres des ténèbres, pratiquées par les fils des ténèbres, ces œuvres-là se déployaient aussi, se multipliaient, et même entre chrétiens, dans les temps des réveils, il y a eu de violentes jalousies, des calomnies, etc., etc. Voilà, les jours sont mauvais. Paul ne fait pas référence à des circonstances particulières, mais au fait que depuis la chute, en vérité, la rupture, jusqu'à la fin, mais pour nous plus précisément, depuis la première venue de Christ jusqu'à sa deuxième venue, ses disciples sont dans un monde où, dit leur maître, vous aurez des tribulations dans le monde. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, etc. Voilà, les jours sont mauvais. On continue avec Éphésiens 5. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça veut dire que un chrétien qui, sauf dérapage provisoire, en attendant le repentir, un chrétien qui s'investit dans de l'amertume, de l'égoïsme, donc autre chose que la bonté, un chrétien qui où on voit les œuvres de la chair, autre chose que la bonté, eh bien, lui, il ne rachète pas le temps. Il gaspille quelque chose du temps de la grâce. Il le gaspille à son détriment, mais on va le voir avec Colossiens, il le gaspille aussi au détriment du salut de ses voisins. Parce que le jour du salut, c'est le salut de qui ? Du croyant d'abord. Nous continuons à être sauvés. Mais évidemment, c'est aussi le salut de ceux qui n'ont pas encore cru et qui sont appelés. Et c'est Paul qui dit, et comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur ? Et comment prêcheront-ils ? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Donc, voyez ? Alors, toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Quand je pratique l'injustice, je fais le contraire de racheter le temps. Et quand, soit par ma prédication, soit par mes propos, je trahis la vérité, je fais le contraire de racheter le temps. Alors, et quand, de toute mon âme, je suis admirateur de quelqu'un qui multiplie les œuvres des ténèbres, d'un chanteur, d'un artiste peintre, d'un acteur, d'un homme politique, dont les œuvres sont clairement au service des ténèbres, si vous voulez, quelqu'un qui est clairement serviteur du diable. Je n'ai pas dit qu'il est sataniste, mais qui par ses œuvres sert le mal, quand moi je suis admirateur de cette personne, je fais le contraire de racheter le temps. Je contredis ma louange du dimanche matin, en vérité de chaque jour. Mon admiration ne doit pas aller vers les promoteurs d'œuvres de ténèbres. Paul dit ce qu'ils font en secret. Alors, de nos jours, il y a très peu de choses qui sont en secret. De nos jours, les fils des ténèbres sont plutôt fiers de leurs œuvres mauvaises. Mais Paul, il dit, il est honteux même d'en parler. Et il dit, n'ayez rien de commun avec tout ça. Dénoncez-le. Alors, réveille-toi. Réveille-toi. On a lu. Toi qui dors. Et le Christ luira sur toi. Alors, vous allez dire, ça vise quelqu'un qui n'est pas encore chrétien. Oui, mais on sait bien que pour devenir chrétien, on ne se réveille pas soi-même. Hein? C'est Dieu qui se révèle. Et dans le contexte fils de lumière et un peu plus loin, rachetez le temps et soyez remplis de l'esprit, il s'agit de croyants. Si je pratique les œuvres de la chair, je veux dire durablement, hein, sans m'arrêter, sans me repentir. Si je suis admirateur, fan de serviteurs, de différents serviteurs des ténèbres, hein, un tel c'est mon idole, eh bien, là, je me suis endormi dans l'erreur. Et c'est là où Dieu me dit, réveille-toi, réveille-toi. Et je peux me réveiller parce que je suis un Christ. Relève-toi d'entre les morts. Quelle tristesse! Un chrétien qui se délecte de pratiquer une œuvre de la chair ou qui se délecte d'admirer un serviteur du diable, eh bien en fait, il est couché parmi les morts. Il n'est pas encore mort, mais il n'est pas à sa place de disciple, il n'est pas à sa place debout, rachetant le temps. Et le Christ resplendira sur toi, c'est-à-dire de nouveau, j'y verrai correctement. Veillez avec soin sur toute votre conduite. Vous comprenez, tout ce qu'on est en train d'éplucher là, c'est ça, racheter le temps. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voilà. Voyez, le contexte nous a bien éclairés. Mais la suite nous éclaire, j'allais dire encore davantage. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Eh bien, c'est que nous vivions le temps favorable, le jour du salut, eh bien, plein de lui, en tant que racheté, que disciple, en nous entretenant, c'est-à-dire ici, ce n'est pas l'entretien, le service entretien, mais en nous parlant les uns aux autres et en nous parlant à nous-mêmes par des psaumes, des hymnes, des cantiques, en rendant grâce à Dieu pour tout et en pratiquant la soumission mutuelle. Voyez, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il y a là une contre-référence au culte païen qui impliquait ivresse, différentes formes de drogue, de, comment on appelle ça, de rythme, de différentes pratiques pour s'enivrer, pour se saouler avec l'idée que dans l'ivresse, j'aurai contact avec les dieux. Je pleure en observant que dans notre génération s'est répandue l'idée que le premier critère de plénitude de l'esprit, c'est l'ivresse. Ça, c'est un mensonge, c'est un grave mensonge. Évidemment que la Bible ne valide pas du tout. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, continuez d'être remplis de l'esprit. Paul ne compare pas la plénitude de l'esprit à l'ivresse, il l'oppose à l'ivresse. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ça, racheter le temps. Focalisez sur Christ, pensez aux choses d'en haut. Votre vie est en Christ. Il est votre Sauveur, il est votre Seigneur, incarné, crucifié, ressuscité, et c'est lui que vous attendez. Quand tu vis ça, tu rachètes le temps. Jésus le dit autrement à la sortie du jardin de Gethsémané. Priez afin de ne pas entrer en tentation. Et maintenant, troisième partie, dernière, et donc plus courte parce que le texte est plus court, Colossiens 4. Donc c'est au verset 5 qu'on lit à la fin du verset 5, rachetez le temps. Mais je vous propose de lire les versets 2 à 6 inclus. Persévérer dans la prière. Je sais que Dieu vous rend sensible à ça, en tant qu'Église locale et les uns les autres, il vous rend sensible à ce genre de paroles. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous. Donc, ici, ça veut dire Paul et ses compagnons d'œuvre. Priez également pour nous. Que Dieu ouvre une porte à notre parole. Afin que je puisse annoncer. Et littéralement, c'est parler. C'est-à-dire le même mot qu'on a eu dans Éphésiens. Entretenez-vous, c'est parler les uns aux autres. Ou parler à vous-même. Et là, Paul dit que je puisse en parler, parler du mystère de Christ. Pour lequel je suis dans les chaînes. Et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et nous y voilà. Autant dans Éphésiens 5, je finis la lecture dans une seconde, autant dans Éphésiens 5, le non-croyant n'est que implicitement bénéficiaire de la fidélité du croyant qui rachète le temps, autant dans Colossiens 4, ça devient explicite. Directement, l'apôtre écrit que si vous vous conduisez avec sagesse, c'est par rapport à Dieu, pour votre propre bénéfice, mais aussi envers ceux du dehors, pour un bon témoignage envers eux. Et c'est là où on lit « Rachetez le temps ». Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Et ce sont d'autres mots pour dire la même chose. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Donc, tout ce qu'on vient de lire, c'est racheter le temps parce que c'est le jour du salut. Persévérer dans la prière, action de grâce, prier pour nous, pour ceux qui prêchent l'Évangile, pour qu'ils puissent en parler clairement. C'est impressionnant. Et puis, conduisez-vous avec sagesse en vue d'un bon témoignage envers les non-croyants. Que votre parole soit, quoi que vous disiez, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, on va revenir là-dessus, sur le sel, au bénéfice des non-croyants. Que vous sachiez, quand vous faites ça, quand il y a grâce et sel, là, on sait comment répondre. C'est tout ça, racheter le temps. Donc, vous voyez, je pense ne pas avoir menti en disant au début que cette expression « racheter le temps » en vérité, elle communique un profond encouragement. Ce n'est pas une expression qui me stresse, ce n'est pas une expression qui me culpabilise, qui me met la pression. C'est une expression qui m'encourage, racheter le temps. Et donc, il reste plus qu'une chose à faire. Je regarde l'heure, si j'arrive. Il est moins le quart. C'est par là qu'il faut s'arrêter? Oui, aïe. 3 minutes.
Oui, on peut prendre 10 minutes de plus, c'est bon. Pour que tu...
Merci, mais voilà, j'espère qu'il y aura... En principe, il n'y a pas besoin de temps. Il me reste une dernière chose à dire et qui est en rapport avec le sel, c'est de se poser une question. Pourquoi le verbe « racheter » ? Alors, si vous lisez dans la Bible le semeur ou le français courant ou d'autres, vous pouvez avoir des traductions comme « saisissez l'occasion »,« mettez à profit l'occasion ». Et l'idée est juste. Ces traductions vous poussent à un engagement. Mettez à profit. C'est le temps du salut, mettez-le à profit. Il n'y a pas de problème. Simplement, en traduisant saisissez, mettez, mettez à profit, ce qui est le sens du verbe pour un grec qui n'est pas disciple de Jésus et dont le Dieu n'est pas l'éternel créateur de toutes choses. C'est le sens, saisissez, mettez à profit. Simplement, on peut se poser une question. Est-ce que, quand Paul écrit « racheter le temps », est-ce que c'est le même verbe que quand il écrit dans Galates 3, il nous a racheté de la malédiction? Ou quand on lit chez Jean dans l'Apocalypse, tu es digne, et donc ce matin il a été fait allusion à ce chapitre 5, tu es digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux, etc., car tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu. Est-ce que c'est le même verbe racheter? Oui. Oui. Ça ne paraît pas croyable. Oui, avec une petite différence, avec un préfixe. Parce que ce verbe racheter, tu es digne car tu as racheté, c'est vraiment le verbe qui est employé pour acheter des choses au marché. C'est-à-dire vraiment, c'est racheter, récupérer, sauver, racheter. Et donc, acheter, si vous voulez. Le verbe même dans Apocalypse 5, c'est acheter. Et donc, il y a le préfixe qui souligne que c'est vraiment un rachat. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, disciples de Jésus, et adorateur de l'Éternel, quand nous lisons racheté, eh bien, il y a une référence à la rédemption. Il y a une référence à l'œuvre de Christ. Et donc, une référence directe à le jour du salut. Donc, de même que le mot kairos, pas pour un grec qui n'est pas disciple de Christ, mais pour un disciple de Christ, le mot kairos, le temps, le fait référence à, c'est aujourd'hui le temps vraiment favorable. De même, le verbe racheter, parce qu'il est écrit dans la Bible et lu par un disciple de Christ, ce verbe racheter fait référence à la rédemption. C'est-à-dire, je rachète le temps, un, parce que j'ai un rédempteur, un bis, parce que j'ai été moi-même racheté, et je rachète le temps d'eux parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être sauvées. Amen. Et bien sûr, le verbe il fait référence à la perdition implicitement. De quoi ils ont besoin d'être sauvés? D'une perdition. Voilà. Voilà ce que signifie racheter le temps. C'est vivre comme Jésus nous dit de vivre et témoigner et servir comme Jésus nous dit de servir. Amen.